L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bon week-end et merci d'être avec nous comme chaque samedi. 16h-18h, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et l'économie numérique. C'est l'atelier numérique et je suis ravi d'être à vos côtés. Comme toute l'équipe d'ailleurs, hein, Antoine Cirella. Nous avons aussi cette semaine Sophia Kadiri qui est avec nous. Aurore Géraud. Nous avons aussi Constance Guyon et Nathalie Doré depuis San Francisco. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Avec au menu de cet atelier dans un instant l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Nous irons aussi en Asie avec Jean de Chambure, Silicon Carnet, Cyber Gadget avec Antoine, Startup de la semaine, Askim qui est un réseau social de services de proximité qu'Aurore Géraud a dégoté pour nous. L'enquête de l'atelier, sommes-nous trop gourmands énergétiquement en entreprise? On verra que parfois, laisser les PC allumés la nuit, c'est pas bon. Notre web stratégie, on s'intéressera à Tati qui se détache de son image discount sur le digital. Notre passion selon Sanet, vous verrez un sujet effrayant de cybercrime du futur. Notre French Tech Tour, l'actualité vue par 01net.com tout à l'heure avec Eric Le Bourlou. Et le crash test d'Antoine. Antoine, on va parler de quoi dans le crash test tout à l'heure, tiens?
L'été approche, on va parler...
L'été approche, c'est une bonne blague.
Mais moi j'aime bien...
Au niveau climat.
Mais attendez...
Parce que là, franchement, c'est pas drôle.
Écoutez, je vais vous dire un truc.
Écoutez.
C'était, parce que ça, c'est en voie d'amélioration, forcément.
Oui, bien sûr.
C'était... Le mois de juin, moi, de mon souvenir.
De mon vivant,
c'était le mois de juin.
Donc, depuis le 18e siècle.
Le plus froid depuis le début du règne de Louis XIV.
Eh bien, voilà. Donc, on sait même pas de quoi on va parler dans le crash test, finalement. Les étoiles de mer.
Et oui, je vous ai dit que c'était l'été.
Ah, ben voilà, donc ça va.
Un peu de poésie, un peu de vacances.
Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Et on commence par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. C'est Nathalie Doré depuis San Francisco qui ouvre le bal. Nathalie, bonjour.
Bonjour François. Alors moi je vais vous parler du futur du travail. Alors je sais que c'est un sujet un peu chaud en France, mais sachez que ici aussi aux États-Unis on en parle beaucoup. Et cette semaine il y avait un think tank sur ce sujet-là chez Adobe. Alors par rapport à ça et tout ce qui s'est dit autour de la table, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien commencer par les mauvaises nouvelles pour garder les bonnes à la fin.
Oui, pour garder le meilleur pour la fin. Je suis comme...
Exactement, allez, c'est ce qu'on retiendra. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va travailler plus. Bon, vous allez me dire, c'est pas une grosse news. Mais, alors, c'est quand même quelque chose, puisqu'en fait, on parle beaucoup des promesses sur l'augmentation de la productivité, sur l'efficacité qui va être, elle aussi, augmentée, sur l'émergence des robots qui vont prendre nos jobs. Donc, finalement, malgré tout ça, eh bien, la majorité des panélistes autour de la table s'accordaient à dire qu'on allait travailler plus à l'avenir. Alors, quand je dis avenir, c'est d'ici 5 à 10 ans. Mais ça compte aussi le temps de travail qu'on va passer à la maison, dans les coffee shops, dans des tiers-lieux. Et là, c'est un peu nouveau. Et là, on en arrive à la bonne nouvelle, qui est qu'on devrait être plus heureux au travail. Alors, pourquoi on va être plus heureux au travail? Premièrement, parce que les machines devraient nous épargner les tâches ingrates. Vous savez, faire vos notes de frais, enfin, toutes ces choses qui vous prennent du temps et qui sont pas très intéressantes. Et puis, tout ça, en enlevant ces tâches-là, eh bien, on devrait, du coup, donner plus de sens à ce qu'on fait. Deuxième chose qui va dans le sens de nous rendre plus heureux, c'est qu'il va y avoir l'émergence des plateformes de travail à la demande et selon certains spécialistes de ces plateformes, eh bien les gens vont choisir des tâches qui sont plus en adéquation avec leur passion, avec ce qu'ils aiment faire et ça leur permet aussi en gérant mieux leur temps de balancer un peu mieux leur vie privée et leur vie professionnelle. Voilà, donc ça fait quand même débat par rapport à ces plateformes de travail à la demande puisque c'est quand même des plateformes qui nécessitent d'être hyper flexibles puisque si on veut travailler bien, eh ben il faut travailler quand le client le demande et donc du coup on choisit pas toujours ses horaires. Mais donc le débat ouvert, mais retenons, on devrait travailler plus, mais on devrait être plus heureux au travail.
Allez, on enchaîne avec Antoine pour sa petite news de cette semaine, Antoine.
Oui, avec une application. J'ai l'esprit aux vacances, moi, cette année.
Non, mais ça se sent.
Cette semaine, je veux dire.
C'est pour ça que vous êtes venu en maillot, d'ailleurs.
Oui, vous avez vu.
Voilà, parce qu'à la radio, évidemment, vous ne le voyez pas.
Alors, très franchement, d'ici l'été, le vrai été, oui. Normalement, je vais perdre encore... allez, 1,5 kg,
oui.
Voire 1,4 kg, voire 1,5 kg.
D'accord.
Donc, ça, voilà. Donc,
mais
il faut,
non, vous êtes beau,
il faut, non, merci beaucoup. Mais il faut juger, donc, avec un petit 1,5 kg en moins, voilà.
Je pense que ça sera encore mieux.
Voilà. Et donc, Là, je vais vous parler d'une appli pour ne plus se faire arnaquer à l'étranger. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de pays où le marchandage est de mise et où les prix, par exemple, des souvenirs ou le prix de la course en taxi aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très...
Les touristes sont des proies faciles.
Les prix sont très élastiques et il n'y a rien de plus désagréable quand on a payé le truc une certaine somme de s'entendre dire par ses copains, quoi, t'as payé ça ce prix-là, mais tu t'es fait vraiment arnaquer, etc. Donc, pour remédier à ce grave problème, il y a une nouvelle application qui s'appelle Tripo, et donc Tripo indique aux voyageurs quels sont les prix moyens pour chacun des souvenirs qu'ils veulent acheter, et donc, évidemment, pour les taxis, pour tous les activités qui peut y avoir. C'est gratuit, pour le moment, c'est seulement sur iOS, mais ça va arriver sur Android, et évidemment, c'est collaboratif, c'est-à-dire que chaque fois qu'un membre achète un objet ou paie un service, ou éventuellement obtient une information sur un juste prix, il est invité à rentrer cette information. Et Edouard Marie, qui est le fondateur de l'appli, a fait une enquête auprès des habitants d'un certain nombre de sites pour pouvoir déjà rentrer une première vague de prix sur la plupart des objets. Pour l'instant, ça n'est proposé qu'en Thaïlande, mais bien entendu, l'idée c'est de l'étendre aux autres grandes destinations touristiques.
Oui, parce qu'il y a d'autres pays où parfois c'est un peu compliqué quand même.
Exactement.
On sait pas trop combien coûte quoi.
Hein. Exactement.
Merci Antoine. On enchaîne avec Sophia qui est avec nous. Sophia Kadiri.
Moi je vais vous parler de scientifiques allemands qui entraînent leurs robots à ressentir la douleur. Et non, ce n'est pas par pur sadisme. Pour les humains, la douleur sert à déclencher rapidement une réaction pour éviter le pire. Quand on se brûle par exemple, le fait d'avoir mal permet d'éviter un contact prolongé avec la source de chaleur et puis des conséquences graves. Mmh. Et bien les chercheurs allemands de l'université Leibniz à Hanovre ont voulu appliquer ce principe aux robots. L'idée selon eux c'est que leur apprendre à souffrir revient en fait à leur apprendre à s'éloigner des situations qui peuvent les mettre en danger et ça permet aussi d'éviter de coûteuses réparations. Donc ces scientifiques ont conçu un système nerveux de robots qui va permettre donc à ces robots non seulement de ressentir la douleur, mais aussi d'y réagir de manière appropriée. En fonction de l'intensité de la douleur, le robot va se déplacer momentanément, s'éloigner définitivement ou encore se figer. Et l'intensité de la douleur est directement liée à la gravité du choc pour l'existence du robot. Par exemple, si le robot a très mal, c'est qu'il risque d'être sérieusement abîmé.
Et oui, s'il est endommagé, il ne marchera plus.
Voilà, et l'autre avantage de cette expérience, c'est qu'en se protégeant eux-mêmes, les robots protègent aussi les humains avec lesquels ils interagissent.
D'accord. On enchaîne tout de suite avec Constance Guillon qui est là. Petite news, Constance.
Alors, je vais vous parler d'un dispositif assez atypique pour lutter contre l'apnée du sommeil. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a 4 à 10 millions de Français qui souffrent d'apnée du sommeil selon la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Et c'est une maladie qui peut avoir quand même des conséquences assez graves sur le système cardiovasculaire, mais aussi qui peut rendre les gens moins attentifs au quotidien. Par exemple, il semblerait que les patients qui souffrent de cette pathologie aient 15 fois plus de risque d'avoir un accident de voiture. Alors pour le moment, la principale thérapie, c'est de porter un masque de ventilation, mais qui est assez encombrant et du coup qui est souvent abandonné après quelques années de traitement par les patients. Et alors là, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place et dont l'efficacité vient d'être démontrée par l'Université de médecine de Pennsylvanie, qui permettrait de réduire de 84% les apnées du sommeil. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un pacemaker pour un nerf de la langue. Alors en fait, l'apnée du sommeil, il faut savoir que c'est lié au fait que la langue s'affaisse pendant le sommeil et va bloquer les voies respiratoires.
Oui.
Donc pour éviter qu'elle s'affaisse, là, ils vont entrer un petit dispositif qui fait la taille d'un petit Oreo au niveau de votre clavicule et qui va partir...
L'Oreo le gâteau ?
Ouais, l'Oreo le gâteau.
Ah oui, vous avez quand même des unités de mesure un peu étonnantes.
Moi, c'est un Oreo.
Alors là, j'ai une information absolument, excusez-moi, mais là, l'Oreo d'un seul coup.
C'est quoi ? C'est voilà. Du breaking news sur l'Oreo ?
Du breaking news. Parce que clairement, c'est générationnel. C'est-à-dire que votre génération à vous, clairement, c'est l'Oreo.
Vous, c'est la Madeleine.
Alors là, vous êtes...
On a parlé 1800 tout à l'heure.
Vous, c'est le Pépito.
Non, c'est le Figolu.
Ah, le Figolu. C'est parce que du tout ce que c'est.
Et vous connaissez pas le Figolu?
Oui, c'est des gaufrettes
avec
une figue au milieu.
C'est pas une question de génération, non, c'est dégueulasse.
Écoutez, de mon temps, on trouvait ça très bon, et on vient d'apprendre que la boîte de Figolu allait quitter les magasins. Il y a encore un truc sous paquet individuel qui s'appelle Figolu qui va se vendre. Oui. Enfin, qui n'est plus digne de s'appeler Figolu, quoi.
Figolu, et donc le Figolu est cuit.
Le, oui, voilà. D'accord. Donc je
non, voulais... non, on referme. Ben, voilà. Non, mais voilà. Cette... L'Oréo pour Constance, qui est voilà. beaucoup plus jeune que
non,
vous.
Non, mais il y a un rapport avec le digital. Oui. C'est que si je puis dire, c'est que j'ai tweeté cette information de la plus haute importance cette semaine. Oui. Et j'ai quand même pu voir qu'il y avait
pas mal de réactions.
C'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose cette semaine. Et donc, du coup,
ça peut réactiver l'actualité qui était un peu pauvre cette semaine. En effet. Constance, avec compliqué de réenchaîner sur votre histoire quand même.
À mes moutons, à mes Oréos.
Donc c'est un pacemaker pour la langue. Il y a la taille d'un Oréo.
Exactement. Alors en fait, celui-ci peut être activé à partir d'une télécommande, histoire de pas l'avoir quand même les petites décharges électriques pendant la journée. Et en fait, une fois qu'on l'active, il se met en marche seulement quelques minutes après pour qu'on ait le temps de s'endormir. Et il va régulièrement envoyer une petite impulsion dans le nerf. Donc on la sent pas très fort, mais on la sent quand même. Enfin, ça réveille pas. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux être endormi.
Oui, parce que si ça réveille à chaque fois.
Voilà. Et en fait, ça permet pendant toute la nuit d'éviter d'avoir à faire des apnées. Donc ça y est, ça a été approuvé par la Food Drug Administration. C'est sur le marché. Mmh. Alors le seul problème, c'est que ça coûte quand même la modique somme de 13 000 euros.
Ouf.
Et pour l'instant, ça fait que très peu de temps, un an que c'est sur le marché. Donc on n'a pas non plus eu beaucoup de retours.
Voilà. Ouais. Ça fait cher le Oréo, hein, 13 000 euros quand même. Aurore Géraud.
Alors, tout à l'heure, on a parlé du robot qui ressent la douleur. Moi, je vais vous parler du robot sadique.
Écoutez, ils s'entendront bien tous les deux.
Il donne de la douleur. Alors, si vous connaissez Asimov, l'auteur de science-fiction, l'une de ses lois de la robotique, c'est que le robot ne doit pas faire de mal à l'être humain.
C'est vrai.
Alors, il y a un artiste et un spécialiste de la robotique qui s'appelle Alexander Reben, qui a créé un robot qui fait mal. Mais quand il veut, en fait. C'est-à-dire qu'il va, avec une petite aiguille, pincer le doigt d'une personne et le faire saigner s'il a envie de lui faire mal. Donc l'idée, c'est vraiment d'éveiller en fait les consciences au fait que c'est de l'intelligence artificielle, hein, c'est pas juste de la robotique, au fait que les robots, ça peut être méchant et que ça peut-être bientôt se lever contre les humains.
Oh mon Dieu.
Et donc voilà, donc il a proposé cette œuvre d'art pour éveiller les consciences.
Voilà, une œuvre d'art qui fait mal. C'est Terminator, comme le dit très justement Colin, notre réalisateur.
C'est vrai.
Hein. On pourrait faire un débat parce qu'il y a des Terminators gentils, d'autres méchants. Hein, si, voilà. Merci beaucoup, Aurore. On enchaîne tout de suite avec notre vue d'Asie et avec vous, Jean.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Bonjour, Jean.
Bonjour, François.
Alors, Jean, cette semaine, on va parler du bac. Voilà, un sujet qui fait frissonner pas mal d'étudiants en France, mais aussi en Chine, parce que le bac en Chine, ça existe et ça s'appelle d'ailleurs le Gaokao.
Oui, voilà François, c'est vrai que c'est une étape aussi forte hein, qu'en France. Ça concerne évidemment un peu plus de monde, puisqu'il y a plus de monde en Chine, donc c'est 9,4 millions de lycéens qui vont passer le Gaokao cette année. C'est vraiment le sésame pour chaque Chinois qui souhaite entrer à l'université. Mais évidemment, comme vous pouvez vous en douter, dans un monde extrêmement connecté où presque chaque jeune lycéen a son téléphone portable et son compte WeChat pour échanger des informations en temps réel ou des documents, et bien tout ça peut amener à un certain nombre de potentielles triches. Et bien le gouvernement a décidé d'employer les grands moyens. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est évidemment le meilleur moyen de lutter contre la triche dans le domaine digital, c'est d'utiliser le digital. Donc l'arme technologique pour éviter tout ça, ça va être plusieurs choses. Ils mettent en place, bien sûr, des empreintes digitales, de la reconnaissance faciale, des détecteurs de métaux. Il y a même des régions qui vont encore un peu plus loin, comme en Mongolie, par exemple, où ils ont mis en place un système de reconnaissance digitale des veines. Dans une autre province, qui est le Henan, où ils mettent des drones qui vont circuler aux alentours des bâtiments des examens pour intercepter en fait d'éventuels signaux radio qui seraient passés par des étudiants pour s'échanger des informations. Vous voyez que donc, tout ça, les technos de détection, c'est très très impressionnant. Et puisqu'on parle de technologie de détection, François, je voulais évoquer ceci parce que c'est tout à fait impressionnant en Asie, ça ne cesse de progresser. Vous savez que un peu plus loin, il y a une magnifique découverte qui a été réalisée grâce à des détecteurs laser à balayage. C'est une technologie qui permet de scanner la surface de la Terre.
Oui.
Donc, à intervalle de quelques secondes, ce fameux laser balayage va envoyer des millions d'impulsions lumineuses sur le sol qui peuvent passer, même y compris à travers une végétation luxuriante. Et c'est ainsi qu'en fait que l'année dernière, ils ont découvert grâce à ce laser sous la canopée de la jungle du Cambodge, au sud d'Angkor, 2000 mètres carrés d'un temple dont personne n'avait idée qu'il puisse exister, donc personne n'avait connaissance, et qui est en fait une preuve du grand développement de la civilisation d'Angkor. Donc ça, c'est quand même absolument fascinant ce qui est arrivé en Asie. Alors c'est des chercheurs, pour le coup, anglais, qui ont découvert ça, mais ça se passe vraiment au Cambodge. Une nouvelle cité a été découverte, extrêmement sophistiquée. On peut imaginer que là-bas, il y avait même des étudiants qui passaient à l'époque leur baccalauréat avec ou l'équivalent de leur baccalauréat avec, pour le coup, pas de smartphone, probablement, donc pas de drone pour les espionner. Enfin voilà, c'est quand même une belle découverte en Asie grâce à ce laser qui moi me fait rêver, parce que voilà, un laser qui est capable de passer à travers la canopée, à travers la luxuriance d'une forêt pour découvrir un temple que personne n'a découvert pendant des dizaines et des dizaines d'années de recherche,
c'est formidable.
C'est quand même absolument fascinant.
Ouais, c'est un radar à trouvailles en quelque sorte.
Un radar à trouvailles, oui, c'est Antoine Cyr Inside, hein, là, il y a des gadgets aux trouvailles.
Exactement, merci beaucoup Jean. Antoine, qu'on va retrouver d'ailleurs dans quelques instants pour son cybergadget et puis aussi pour le crash test. Jean de Chambure, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Et vous restez avec nous la suite de cet atelier dans un instant avec le Silicon Carnet et les cybergadgets. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
À suivre dans cet atelier numérique, notre start-up de la semaine, l'enquête de l'atelier. Sommes-nous trop gourmands et énergétiquement en fait en entreprise? On verra ça avec deux spécialistes. Les gadgets d'Antoine dans une minute, mais dans l'immédiat, c'est notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré depuis l'atelier de San Francisco. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors on va parler des voitures autonomes cette semaine, les voitures sans chauffeur. Quelles sont les nouveautés?
Alors François, la grande nouveauté, elle est plutôt vue du régulateur et de la loi, parce que là on va passer une grande étape. En juillet prochain, le gouvernement américain devrait légaliser les voitures autonomes au niveau de tout le pays. Alors ça peut paraître être une petite news, mais pour nous c'est une grosse news, puisqu'en fait jusqu'à maintenant, les autorisations se faisaient acteur par acteur, constructeur par constructeur et état par état. Donc autant vous dire, c'était long et fastidieux, et cela devrait donc vraiment donner une vraie réalité à la voiture autonome aux États-Unis. Donc en fait, Elon Musk disait il y a pas si longtemps que ça que c'était une façon de... Il disait, voilà, la voiture autonome, c'est une réalité. C'est pas de savoir si ça se fera, c'est de savoir quand ça se fera. Et ben voilà, c'est en train de se faire.
Ça accélère. Justement, quelles sont les prévisions de vente et d'adoption de ces voitures sans chauffeur, Nathalie?
Alors, pour citer Elon Musk, le patron de Tesla, mais c'est vrai qu'il s'exprime beaucoup sur ce sujet-là, il disait aussi que la moitié des voitures produites dans 7 à 8 ans à peu près devraient être autonomes. Alors c'est un chiffre conséquent. Après, il faut bien sûr ajouter à cela le parc existant, hein, parce que tout le monde ne va pas rendre sa voiture non autonome pour avoir des services de voiture autonome. Donc selon des analyses de l'IHS, en 2035, hein, donc à peu près, c'est dans moins de 20 ans quand même, 21,4% du marché des voitures mondiales seront autonomes. Donc ça sera quand même une bonne partie du parc.
Et en termes d'usage, Nathalie, ça va changer beaucoup de choses, ces voitures autonomes?
Oui, ça va être une vraie révolution dans le secteur de l'automobile et dans le secteur de la mobilité de manière plus large. On n'utilisera plus la voiture de la même façon. Hein, on peut imaginer des voitures autonomes sillonnant les villes, délivrant différentes sortes de services. Alors, bien sûr, on continuera à déplacer des voyageurs, mais ça pourrait être aussi utilisé pour livrer des colis, pour proposer de la nourriture. Et ça redonnera aussi, alors argument qu'utilise beaucoup Google, la mobilité aux personnes qui ont aujourd'hui perdu leur mobilité. Alors, ça peut être pour des causes de vieillesse, d'accidents ou tout simplement des questions de coûts.
Alors évidemment, côté constructeur, c'est la course à l'innovation hein, pour construire ces voitures.
Et oui, on voit aux États-Unis beaucoup d'alliances stratégiques se nouer hein, pour justement prendre cette part de marché sur la voiture autonome. Alors c'est marrant parce que ce sont des alliances entre deux types d'acteurs. Alors on retrouve les constructeurs automobiles hein, qui sont légitimes sur le sujet. Et puis d'un autre côté, les géants de la tech hein, qui veulent aussi une part du gâteau. Et ces alliances, ben, la première qui avait eu lieu, c'était entre General Motors et Lyft pour travailler sur des sujets de voiture autonome. Puis plus récemment, Fiat essaye avec Uber. Donc voilà, sujet à suivre côté innovation et alliance.
Voilà, alors ça c'est pour les grands groupes, mais j'imagine que côté start-up, bien évidemment, il y a pas mal de choses aussi intéressantes. Hein.
Oui, oui, il y en a plein. Il y en a pléthore ici dans la Silicon Valley. Alors, je propose de vous en présenter deux qui sont sur des approches complètement différentes. Alors, d'un côté, on a Zoox, qui est une start-up de la vallée, qui, elle, en fait, est partie de zéro. Elle conçoit vraiment les voitures autonomes de A à Z. Ils sont pas partis d'un véhicule existant, comme avait pu le faire Google à l'époque. Et du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils repensent complètement la voiture. Elle roule dans les deux sens. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Elle est autonome. Elle est aussi électrique. Elle est pensée pour être partagée. Voilà, ce qui est important, car dans nos villes, on ne pourra pas fonctionner avec chaque habitant ayant une voiture autonome. Donc, c'est intéressant de voir ces nouveaux concepts de mobilité. Et puis, à l'opposé, il y a une autre start-up, c'est Coma.ai pour intelligence artificielle, qui est aussi une start-up de la vallée. Et eux, alors, ils proposent un kit pour rendre votre voiture actuelle autonome. Donc voilà, c'est pour 1 000 $, vous allez mettre une caméra, mettre des capteurs un peu partout sur votre voiture et vous allez la rendre autonome. Alors forcément, il y a des prérequis, il faut que la voiture donne accès à son électronique, mais c'est en train d'être fait. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est fait par le CEO de Coma.ai qui fascine, c'est George Hotz, ici dans la Silicon Valley. Il avait été le premier hacker de l'iPhone, il avait tout juste 17 ans, il est encore très jeune, et voilà, il rêve d'être à la tête d'une licorne, ces startups qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars, et il démarre plutôt bien, puisqu'il a déjà levé de l'argent. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses dans la Silicon Valley, mais je dirais, François, qu'il faut aussi regarder du côté de la Chine, parce que pour le coup, la voiture autonome, ça va être une bataille est-ouest.
Et Jean de Chambure nous en parle régulièrement. Merci beaucoup, Nathalie Doré, depuis San Francisco. Et on enchaîne avec les trouvailles de gadgets de Antoine Cyr. Antoine, qu'est-ce que vous avez pour nous cette semaine?
Écoutez, d'abord, je vais vous parler de l'ubérisation du marché de la donation alimentaire. Alors, dit comme ça,
on se dit, voilà. C'est important, mais...
Alors, c'est une organisation new-yorkaise qui s'appelle Transfer Nation, qui a eu l'excellente idée d'appliquer donc le modèle de l'économie participative à la donation alimentaire. Parce que les fondateurs se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'investir, mais qui ne savaient pas vraiment comment faire, ou qui n'avaient pas beaucoup de temps pour faire du volontariat. Pourtant, vous savez qu'il y a énormément d'occasions où il y a des aliments qui sont gâchés, notamment d'ailleurs les cocktails professionnels. On sait que c'est presque criminel de pas être organisé à la fin du cocktail
pour donner tout ce qui va à la poubelle
parce que il y a quand même énormément de choses qui partent, ou alors d'ailleurs quand il y a pas énormément de choses, les gens se battent et ça crée d'autres problèmes.
Oui, c'est ça.
Ouais. Du coup, l'idée, c'est que les organisateurs de colloques, qui se terminent généralement par ces fameux cocktails, c'est simple, ils n'ont qu'à se créer un profil en quelques clics sur l'application, puis ils vont indiquer l'adresse de l'événement, et lorsque l'événement donc se termine, ils le signalent et une notification est envoyée aux volontaires. Et donc ceux qui sont disponibles peuvent se rendre sur place pour récupérer les restes et les déposer dans la banque alimentaire la plus proche, et éviter ainsi que ces aliments aillent à la poubelle. Grâce à ce système, on a déjà pu récupérer les restes de 250 événements, soit 5700 kilos de nourriture.
Ce qui est
énorme,
quand même.
Voilà. Donc, on voit bien, c'est une application, et il y en aura de plus en plus, c'est une micro-application, le micro n'étant pas parce que c'est un petit sujet,
c'est pas péjoratif,
mais parce que c'est un sujet de proximité.
Évidemment.
Et donc, il y aura de plus en plus de micro-applications de ce type pour régler des problèmes qui se posent dans un périmètre donné.
Ok, alors ça c'était pas tout à fait un gadget, mais une appli.
C'est une appli.
C'est même plus qu'un gadget finalement, puisque c'était...
Alors sinon, genre plus gadget, j'ai le robot bibliothécaire. Donc l'idée n'est pas de remplacer les bibliothécaires en chair et en os. Alors déjà, il a un nom sympa, il s'appelle Loros, et donc le
Loros,
A-U-R-O-2-S, c'est pas Aurore, c'est Oros. Et donc le boulot de Oros consiste à scanner les codes des différents livres pour détecter ceux qui sont mal positionnés et les ranger, ou bien voir ceux qui sont absents des rayonnages, et à ce moment-là il va y avoir évidemment Oros Soros va indiquer aux véritables employés quels sont ces livres absents pour que les employés en question les retrouvent. Donc tout ça va être possible grâce à des puces RFID qui sont placées sur les ouvrages et à des capteurs qui sont localisés sur les étagères. Évidemment, les robots bibliothécaires ne font pas les choses à moitié et sont équipés aussi de petits monte-charges qui leur permettent de déplacer les ouvrages. Le robot est aussi capable de répondre aux questions des étudiants sur l'emplacement d'un livre, ce qui permet là aussi de dégager un peu de temps des bibliothécaires pour des choses plus intéressantes. Pour l'instant, il est testé dans différentes bibliothèques de Singapour et il a quand même une précision de 99%. Et évidemment, il travaille aussi bien de jour que de nuit.
Très bien, étonnant ce robot bibliothécaire. Bon, après, est-ce qu'il pourra nous conseiller comme le fait aujourd'hui les vrais bibliothécaires, ça c'est moins sûr.
Ouais, s'il pouvait nous aider à lire les livres encore plus vite tout en ayant toute la substance, ça décuplerait notre mémoire.
Antoine, on revient dans un instant, on se retrouve pour le crash test tout à l'heure. Hein. En fin de cet atelier numérique, on va parler de l'étoile de mer cette semaine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est bien l'atelier numérique et vous êtes bien sur BFM Business comme chaque samedi 16h-18h. Dans un instant, notre enquête de l'atelier. Sommes-nous trop gourmands énergétiquement en entreprise? Ce sera notre dossier, notre enquête plutôt de l'atelier, mais dans l'immédiat, notre start-up de la semaine. Aurore Géraud, on va découvrir un nouveau réseau social de services de proximité.
Oui, on va découvrir Askim. Et avec moi pour en parler, Lucas Schmitter, qui est donc associé en charge du business développement à l'international de Askim. Lucas, bonjour.
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 Alors, réseau social de services de proximité, est-ce que ça définit bien ce qu'est Askim?
Oui, en quelque sorte. Ce qui est important de savoir avec Askim, c'est que c'est une application qui, contrairement à ce qui se fait de plus en plus dans l'économie collaborative, n'est pas verticale, mais c'est bien une application qui est globale et qui est ouverte pour tout le monde et pour un certain nombre de services sans vraiment de limites.
Alors, c'est quoi les services exactement? Comment ça marche?
Alors, en fait, Askim, c'est très simple. C'est donc une application qui, comme vous l'avez dit, s'appuie sur l'économie collaborative et la proximité. Elle permet en fait de mettre en relation des particuliers ou des professionnels, en prenant une personne qui a besoin d'un service, que nous on appelle l'Askeur, avec une autre personne qui va être choisie et prête à réaliser cette demande, l'Askreneur, en contrepartie d'une rétribution. Donc en fait, c'est très simple. C'est une personne qui a besoin de quelque chose, qui se met en relation avec quelqu'un qui a du temps, des compétences, besoin d'arrondir ses fins de mois et qui est prêt à répondre à cette demande.
Est-ce que vous avez des exemples de services que l'on pourrait proposer?
Oui, bien sûr, ça peut être tout type de demande, besoin de quelqu'un pour m'aider à tondre ma pelouse, à monter des meubles que je viens d'acheter, de quelqu'un pour me cuisiner un plat spécial quand je reçois des invités, ou alors là, dans la période de l'euro, quelqu'un pour apporter des bières pendant le match parce qu'il n'y en a plus dans le frigo.
Alors, pourquoi avoir lancé ce service à la base? Là, par exemple, vous proposez du jardinage, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait être à direction des personnes âgées, par exemple?
Alors, nous, on propose rien de particulier. L'application, elle permet simplement de mettre en relation une personne qui a besoin de quelque chose, peu importe la nature de la demande, avec des gens qui seront prêts à y répondre. Donc, nous, on a comme objectif de nous adresser à un maximum de personnes qui ont besoin de vivre mieux en ce qui concerne les askers et d'autres personnes qui ont des compétences, des savoir-faire, peut-être pas exploitées, et surtout besoin d'arrondir leur fin de mois qui, elles, du coup, peuvent répondre aux différentes demandes. Donc, on a une cible qui est assez large.
Donc vous laissez totalement indépendants les personnes, vous triez un petit peu?
Non, on s'adresse aux professionnels également, bien évidemment aux particuliers, mais aussi aux professionnels qui, en plus de l'utilisation classique de l'application en tant qu'askeur ou askrunner, peuvent faire de la publicité géociblée pour augmenter en quelque sorte leur zone de chalandise.
Et donc si moi je veux utiliser la plateforme, ça fonctionne comment? Je m'inscris, je fais un profil, est-ce que c'est géolocalisé?
C'est ça, c'est géolocalisé, c'est très simple. Et donc, vous avez deux possibilités. Quand vous êtes un askrunner, donc que vous voulez répondre aux demandes, vous pouvez observer les différentes demandes postées sur l'application de par une carte ou alors en les filtrant par catégorie, puisqu'on a quatre catégories qui sont sur l'application. Ou alors, quand vous êtes un askeur, pardon, vous pouvez en quelques clics déposer un ask, et donc la demande, le besoin pour lequel vous avez besoin de trouver un askrunner.
Et donc le bénéfice est surtout social, le but c'est vraiment de créer aussi des interactions de proximité.
C'est exactement ça, et je suis ravi de vous l'entendre dire, parce que nous on est vraiment partie de cette constatation. On a un vrai but sociétal, on veut vraiment permettre de replacer l'humain au centre des débats. On constate quand même une évolution du monde actuel qui est assez compliquée, tant sur le plan économique, social, environnemental, avec un contexte local qui est assez morose et assez sinistré, la hausse du chômage. Enfin, en ce moment, ça va un petit peu mieux, mais ça reste tout de même assez compliqué. La baisse du pouvoir d'achat et les contacts humains se raréfient. Le lien social disparaît au profit des échanges numériques. Mais les échanges numériques, ça reste tout de même une énorme évolution. Et avec Askim, on veut profiter de cette évolution, aller dans le sens de cette évolution, mais en recentrant l'humain au cœur du débat et en recréant du lien social, puisqu'avant tout, Askim, c'est aussi une application qui permet à deux personnes de se rencontrer.
Merci beaucoup, Askim, Lucas Schmuper, donc d'Askim.
Attention, IM, merci. Ça s'écrit H-E-E-M. Hein.
Oui, voilà. À l'américaine.
À l'américaine. Merci beaucoup, Aurore. Et après, Aurore, place à notre enquête de l'atelier avec vous, Lila Megraouet, cette semaine. Et on va parler d'énergie. Sommes-nous trop gourmands énergétiquement en entreprise? C'est la c'est question ça. Qu'on va poser à nos invités.
Bah oui, c'est ça, vous pensiez qu'un mail vaut toujours mieux énergétiquement qu'une lettre envoyée par la poste. On va essayer de voir si on doit se détromper ou pas. Figurez-vous que de nos bureaux bardés d'écrans, en fait, on consomme une très 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 grande quantité d'énergie. Alors c'est ce que nous apprend un livre blanc réalisé par l'ADEME et l'ADN Ouest, qui est une association de l'Ouest français réunissant les décideurs du numérique. Alors on va le découvrir avec deux experts. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Alain Anglade, vous êtes expert à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et Martin Dargent, vous êtes dirigeant d'Izivirt, qui est un cabinet d'études spécialisé dans l'impact environnemental des TIC, et vous avez participé à la rédaction de ce livre blanc. Alors vous avez récolté des données auprès d'une cinquantaine d'organisations à peu près. Qu'est-ce qui sort de cette étude? Est-ce qu'aujourd'hui on consomme à outrance derrière nos écrans? Martin Darlon.
Alors quand on a lancé l'étude, en fait on a été voir l'ADEME, on n'arrête pas de dire que l'informatique consomme beaucoup dans les organisations, mais on est incapable actuellement de dire quelle est la part de l'informatique finalement par rapport à la consommation globale. Donc on a proposé le protocole à l'ADEME qui a dit allez-y, c'est intéressant, on peut y aller. On l'a commencé une première fois sur 12 entreprises, ça a très bien marché, donc on l'a reproduit sur 50 et maintenant sur plus de 70. Et le livre blanc qu'on a sorti permet d'analyser en fait ces 70 organisations et l'ensemble de l'impact. Et ce qu'on voit, et ce qu'on note, c'est que l'impact, il n'est pas négligeable du tout. On va pas aller dans la tertiaire. En général, on va aller autour de 20-25% de consommation liée purement à l'informatique, et on va monter jusqu'à du 50%.
Donc ça, enfin, ce que vous dites, c'est surtout les entreprises du secteur tertiaire qui sont les plus gourmandes.
Bon, en fait, elles vont toutes consommer beaucoup. Mais dans le tertiaire, on a pas d'industrie, on n'a pas de chaîne de production, donc l'impact d'une chaîne de production est souvent beaucoup plus importante que un parc informatique. Par contre, on a mesuré aussi dans des industries et on arrivait quand même à voir l'impact, la mesure de l'informatique dans l'industrie également. Mais ça représentera plutôt du 5-6% plutôt que du 50 ou du 25%.
Alors Anglade, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a marqué, qui vous a étonné au cours de cette étude?
Alors le chiffre qui m'a marqué, justement, c'est celui sur le secteur des services, secteur tertiaire, qui est de 800 kWh par an par utilisateur, c'est-à-dire tous les équipements informatiques qu'on peut être amené à utiliser au bureau, son ordinateur bien sûr, mais aussi le copieur, l'imprimante, les écrans, les équipements auxquels on pense pas, c'est-à-dire les téléphones, les switches, etc. Et j'ai rapproché ce chiffre d'un autre chiffre qu'on avait, une autre étude qu'on avait fait il y a 15 ans. La précédente étude date de 15 ans avec des mesures. Pas sur le même échantillon bien sûr, c'est difficile de comparer. On était à 875 kWh par an par utilisateur. Donc ça a un petit peu baissé. Les technologies ont dû s'améliorer, ça c'est évident. Hein.
Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs, les écrans sont de moins en moins énergivores.
Ils sont de moins en moins énergivores, mais ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle de l'effet rebond, hein, dans notre jargon un peu de spécialiste. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces économies qu'on peut faire, elles sont réutilisées à d'autres usages, et notamment sur l'informatique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un glissement. Donc en 2000, on avait un peu moins de réseau, on avait un peu moins d'internet qu'on en a maintenant, et il y a eu un glissement des usages, et que ce glissement, on le voit parce que en fait, les consommations unitaires des équipements ont dû baisser, mais au global, on continue de consommer beaucoup. Quoi.
Et qu'est-ce qui est tout particulièrement énergivore? Ça va être les appareils, ou justement ce que vous disiez, l'usage, à savoir qu'on est connecté à Internet massivement et presque constamment.
En fait, ce qui fait la différence avec l'industrie, quand on voit les mesures énergétiques, c'est que dans l'industrie, on va trouver une chaîne de production qui consomme beaucoup.
Oui, parce que ce sont des machines, voilà, qui consomment beaucoup d'électricité, etc.
Il y a souvent des climatisations, des frigos, des choses qui sont très énergivores. Dans le tertiaire, il y a l'informatique partout, et tout consomme beaucoup, un petit peu. Il n'y a pas de grosse consommation, à part la salle serveur, le data center, mais à peu près tous les matériels qu'on a, il y en a de plus en plus.
Le refroidissement de la salle serveur.
Voilà,
aussi.
En plus, on le refroidit. C'est un peu une salle serveur. Quand on décrit une salle serveur, souvent c'est des radiateurs qu'on va refroidir.
Oui,
c'est aussi
ça.
L'intérêt d'une salle serveur. sinon, c'est le matériel. On a de plus en plus, par exemple, on voit ici sur le bureau, il y a déjà des postes de travail, il y a plusieurs écrans. On a des vidéos, on voit même dans les écoles des vidéoprojecteurs dans toutes les salles, des écrans connectés. C'est vraiment l'objet qui est standard est partout, et cet objet, il est plus ou moins intelligent. On va dire les postes, les clients, les PC portables, eux sont à peu près intelligents parce que on a une nécessité d'autonomie. Donc on fait un petit peu attention, donc ils vont passer en veille, ils vont s'arrêter, ils vont redémarrer. Mais tous les autres matériels informatiques qui sont branchés continuellement, où on n'a pas cette problématique d'autonomie, sont pas forcément super efficients. On l'a noté par exemple sur les téléphones de bureau. Un téléphone de bureau basique qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, parce que maintenant on a des portables. Mmh. S'il est alimenté ce qu'on appelle par PoE, c'est-à-dire par le réseau, ben ce téléphone de bureau, finalement, à l'année, il va consommer autant que mon PC portable. Parce qu'en fait, sa consommation, elle est constante, tout le temps la même. Et elle est pas intelligente du tout. Et là, il y a vraiment un problème, parce qu'il y a un gaspillage énorme. On a calculé que le gaspillage, par téléphone, on gaspille au moins 80% de son énergie à l'année. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on en a découvert beaucoup dans l'étude. Sur la partie serveur, si on prend les serveurs, on en a de plus en plus, parce qu'on voit bien avec Internet, avec tous les usages qu'on a actuellement, on a de plus en plus de serveurs. On est passé à la virtualisation des serveurs, donc ça veut dire que ça a été très intéressant d'un point de vue technologique, parce qu'au final on avait moins de machines physiques, et donc une machine, ce qu'on appelle une VM, une machine virtuelle, c'est simple à créer, on en crée de plus en plus. Et maintenant, ce qu'on constate, après, au début de la virtualisation, on a vu qu'on diminuait le nombre de serveurs physiques, parce qu'on virtualisait, et maintenant on est en train de racheter des serveurs physiques pour héberger plein de machines virtuelles qui sont multipliées énormément. Et c'est aussi derrière ce qu'il y a, on parle de cloud computing, il y a plein d'usages qu'on n'avait pas forcément, des choses qui sont pas forcément nécessaires, et on multiplie énormément ces appareils.
Et est-ce qu'on pourrait estimer que le passage au mobile et au portable, que ce soit l'ordinateur ou que ce soit nos smartphones, pourrait être une bonne nouvelle consommation énergétique?
Il y a de plus en plus de tâches au travail qu'on fait sur son mobile, donc pour que ce soit efficient, il faudrait éteindre son ordinateur travail, non? C'est ça.
Exactement.
Parce que les performances énergétiques des équipements mobiles sont optimisées du fait de l'autonomie, quoi. Je veux dire, les fabricants ils cherchent à avoir la plus grande durée d'utilisation sur batterie, et donc les équipements consomment moins. Une tablette, ça consomme 10 fois moins qu'un PC portable, par exemple. Un smartphone, ça consomme encore moins. Donc c'est sûr que il faudrait penser à ne pas allumer son PC si vraiment on peut faire un maximum de choses sur une tablette à la place.
Pensez à ne pas allumer son PC, mais surtout pensez à l'éteindre, non? Parce que
surtout pensez à l'éteindre. Quand
j'imagine que bien voilà, ça nous arrive tous. On part du travail, on oublie d'éteindre le PC. Il se met en mode veille. Et même s'il se met en mode veille ça consomme de l'énergie.
Bon, en fait, le constat, quand on a fait l'enquête, on a fait aussi des sondages utilisateurs pour voir si les gens éteignaient bien leur serveur. On a analysé, mais on a aussi demandé s'ils éteignaient. Il y en a beaucoup qui éteignent, il y en a beaucoup qui oublient, il y en a beaucoup qui, si c'est pas automatisé, ne le font pas forcément. En plus, ils ont l'impression que ça consomme pas. C'est aussi ça qui est un peu traître. Si on se dit l'écran s'arrête, mon matériel consomme plus. C'est faux. Parce qu'il continue, s'il n'est pas réellement éteint, il va continuer à consommer. Et en plus, le fait rien que d'être branché, il y a une consommation résiduelle, rien que le fait qu'un matériel informatique branché consomme. Et ça, tout ça multiplié par les millions de matériel connecté qu'on a partout, c'est assez monstrueux en fait. Il y a un chiffre qu'on aurait pu citer en introduction, c'est l'université de Dresde, elle avait chiffré que ce que consommera l'informatique en 2030, c'est autant que toute la planète en 2008. Donc on est sur des chiffres démentiels. On est sur une accumulation de petits volumes, de petites consommations, mais qui sont partout. Et donc il faut, en fait, la difficulté aussi, je fais aussi le parallèle par rapport à l'industrie où il y a des chaînes de production, on va optimiser la chaîne de production, on va gagner beaucoup. Mmh. Là, il faut jouer à plein de niveaux. Il faut jouer sur tous les niveaux. Il faut rationaliser. On parle d'éco-conception logicielle, c'est-à-dire les logiciels vont consommer moins, donc on va pouvoir en mettre plus sur des serveurs. Il faut rationaliser les serveurs. Mmh. Il faut rationaliser la clim. Il faut bien éteindre tout son matériel.
Les constructeurs ont aussi des progrès à faire en matière de consommation d'énergie de leurs machines?
Alors là, on peut en parler avec Adem. On peut en dire oui, ils en font, mais pas tous et pas partout. Par exemple, un constat qui a été assez flagrant, c'est quand je vous donnais l'exemple des téléphones, des téléphones de bureau. Clairement, il y a un gaspillage énorme et ça devrait. On pensait tous que le matériel était plus intelligent, que le switch, ce qu'on appelle le commutateur, celui qui alimente le matériel, allait passer en veille, allait diminuer. Et en fait, les fabricants ne font rien sur cette partie-là. En tout cas, c'est pas mis en œuvre. Il y a quelques protocoles qui font, mais c'est pas du tout généralisé. On était à Londres il y a 15 jours avec une quinzaine d'autres pays sur ce sujet-là et tout le monde constatait la même chose. Il y avait beaucoup de gaspillage.
Est-ce que quelque part on n'est pas analphabète au niveau de notre consommation énergétique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord? C'est sensibiliser les gens.
Il faut sensibiliser. Le problème de l'énergie, c'est on avait un collègue qui avait une image assez intéressante. Il disait l'énergie, c'est vous imaginez, vous rentrez dans un supermarché, il y a aucune étiquette de prix sur les produits, vous passez à la caisse en sortant. C'est exactement ça. On est infichu de savoir combien consomme. Son téléviseur, sa machine à laver, etc.
C'est d'ailleurs fou. Alors, quand on y pense.
Il y a des étiquettes maintenant énergie qui permettent au moment de l'achat de se rendre compte de la consommation sur la durée de vie de l'équipement. Tous les équipements n'ont pas cette étiquette, notamment tout ce qui est informatique n'en a pas. Alors il y a des labels de qualité, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Et le problème aussi qu'on a, nous en tout cas en tant qu'organisme public, c'est que on est bien conscient que les technologies de l'information et de la communication, c'est quelque chose qui est très moteur dans l'économie, quoi. Donc, on peut pas se permettre de montrer du doigt ce qui fait tourner l'économie actuellement, quoi. Donc,
c'est compliqué.
C'est très compliqué. Le message est très compliqué.
Mais malgré tout, sensibiliser les gens pour qu'ils éteignent leur PC, par exemple, le soir, des choses comme ça, des gestes simples, ça serait pas mal.
Alors, tout à fait. Ouais.
Il y a notamment, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, il y a des brochures sur le site de l'ADEME en téléchargement qui expliquent aussi
tout ça. Voilà. D'accord.
Et il y a aussi des guides, notamment le livre blanc va en faire partie, des guides pour les DSI et tout ça.
Merci à tous les deux.
Merci.
Eh bien voilà, donc maintenant pensez à éteindre votre PC portable. Bon, alors maintenant, si vous vous rendez compte là, parce que nous sommes samedi après-midi, que vous l'avez laissé allumé, bon, est-ce qu'il faut retourner au travail pour l'éteindre? Mais la prochaine fois, il faudra l'éteindre. On revient dans un instant, la suite de l'atelier numérique sur BFM Business dans une minute, ce sera notre web stratégie. On va s'intéresser à la stratégie digitale de Tati. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier. Dans un instant sur BFM Business, ce sera notre passion selon Saint-Net. On va parler de crimes du futur. Vous allez voir, c'est un titre un peu énigmatique mais qui est passionnant. Et tout de suite notre web stratégie. Et on va parler de Tati. Tati qui se détache de son image discount, Aurore Géraud.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Pour la web strat de cette semaine, nous sommes de nouveau en Crète et à l'occasion des Big Boss Summer Event auxquels nous avons assisté. Et avec moi aujourd'hui, Sophie Fécamp, qui est directrice digitale de Tati.fr. Sophie, bonjour.
Bonjour, Aurore.
Revenons un petit peu sur l'historique. Tati, c'était à la base des vêtements pour toute la famille à très bas coût. C'est aussi un dépôt de bilan en 2003 qui a touché énormément la marque et qui a poussé un vent d'innovation suite à son rachat par Eram. Alors maintenant, c'est aussi en 2014 un vrai bond puisque 440 millions de chiffres d'affaires ont été notés et 150 enseignes aujourd'hui de la marque. Alors, Tati, comment on arrive à ce chiffre d'affaires? Est-ce que c'est lié au digital? Quel est l'historique de la digitalisation de Tati?
Le lancement du site date de mai 2010.
On a lancé le site pour une volonté de diffuser Tati sur l'ensemble du territoire, parce qu'en 2010, Tati, c'était 70 magasins. Maintenant, on est 140 magasins. Nous avons 140 magasins. Et c'était une opportunité de relancer la marque avec une nouvelle identité visuelle et puis une opportunité de commerce sur l'ensemble du territoire.
Alors, une nouvelle identité visuelle. On a vu beaucoup ces derniers temps que la marque essayait de se dégager un peu de l'image discount. Comment ça marche ?
Alors, c'est passé par le site e-commerce, bien sûr, par un renouveau des magasins avec un nouveau concept, noir-rose, avec, on n'oublie pas le damier Vichy, qui est l'essence même de Tati, le gros Vichy rose. Les sacs viennent de sortir aussi avec une grosse face, avec un Vichy rose, et puis le nom Tati, parce que quand on parle de Tati, on dit le sac. Donc, on a mis quelques années à retrouver une belle identité du sac et c'est un succès. C'est aussi au niveau des catalogues. Tati distribue plusieurs millions de catalogues sur l'année. Donc, c'est comment je renouvelle mon identité, comment je mets les prix en avant, parce qu'on est discounter, hein, on vend des bas prix. Donc, voilà, c'est tous ces éléments entre eux qui doivent être cohérents.
Et d'ailleurs, le catalogue, il est en ligne, non, il me semble?
Oui. Donc le catalogue est en ligne en même temps que les magasins. On essaie d'avoir tous les produits en même temps, mais une grande vitre sur le digital et envoyer une grande vitre logistiquement, c'est pas possible. Donc là, vous la retrouverez exclusivement en magasin, mais on essaie d'avoir tous les produits en même temps sur le site.fr.
Et du coup, vous avez sorti mercredi votre nouveau site. Quel développement ça a été pour vous ?
Alors le nouveau site, déjà, c'est visuellement, ça va être le deuxième gros changement depuis le lancement du site en 2010. Le site devient semi-responsive, donc on l'a travaillé avec notre agence Web Population. C'est une nouvelle identité et des nouveaux positionnements de produits, plus petits, plus restreints pour s'adapter à toutes les tailles d'écran. Et puis après, on a très peu changé aussi l'arborescence et le parcours client pour pas perturber le client tout de suite, pour qu'il y ait des points de reconnaissance.
Et du coup, quel autre type de technologie vous développez, enfin vous mettez en magasin par exemple?
Alors, ce qui s'est passé en magasin, c'est que après avoir lancé le site, pendant 3 années, on a appris le commerce, la logistique, elle en a mis en place le CRM, le service client doit toujours être une priorité. Parce que Tati avait une mauvaise image, hein, donc je commande sur Tati, je ne dois pas être déçue du tout. Et à partir de 2014, nous avons lancé la carte de fidélité en magasin. Donc on a utilisé la plateforme digitale pour digitaliser l'ensemble de la carte. Donc la carte, vous pouvez l'acheter en magasin, sur le .fr. Votre carte, elle est disponible sur l'appli. Vous avez votre compteur de points. Vous recevez des pushs, des SMS ou des mails en fonction des opérations qui sont liées au porteur de carte.
C'est une carte payante.
Alors, payante parce que elle offre beaucoup d'avantages. Et puis, renouvelée tous les ans.
Et du coup, est-ce qu'on peut en magasin scanner sa carte depuis son appli ?
Oui, exactement. Avec l'appli, vous avez votre carte et vous la présentez. Votre carte est dans votre appli, vous la présentez et puis la caissière peut la scanner.
J'ai vu que vous aviez en ce moment un déploiement en Afrique. Est-ce que au niveau e-commerce, ça sera déployé aussi ?
Pour le moment, non. On met la priorité sur se développer physiquement sur ces pays.
Il y a des difficultés sûrement de livraison, ce genre de choses culturelles, je suppose.
Livraison, paiement, c'est à l'étude. Voilà.
Quelles difficultés vous êtes mis sur le principe du fast fashion, avec du renouvellement en permanence d'habits, voilà. Ça entraîne quoi comme difficulté?
Alors Tati s'est organisé avec 200 personnes en Asie, avec des bureaux de style qui vont renouveler les collections au fur et à mesure et livrer nos magasins au fur et à mesure de la saisonnalité, et puis aussi des achats court terme pour répondre aux produits du moment qu'on aurait loupé. Alors Tati, c'est de la fast fashion, c'est aussi de la maison, c'est aussi du mariage. On a vu une mariée sur 4 en France. Donc c'est un gros sujet aussi pour nous, l'actualisation l'actualisation des collections mariage aussi, c'est important.
Et quels sont les chiffres en e-commerce, magasin, appli mobile?
Alors le site aujourd'hui représente 15%
du chiffre d'affaires global de Tati. L'appli mobile, on l'a mis en place l'année dernière au mois d'octobre et on a rapidement aussi renouvelé le site mobile au mois de novembre. Parce que c'est important, hein, maintenant, énormément de trafic passe par le mobile.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre sur la suite? Est-ce que vous avez des projets en magasin ou sur le site?
Aujourd'hui, on se pose la réflexion, on met le client au centre de l'ensemble de nos points de contact et comment être cohérent, comment lui proposer la meilleure offre au bon moment. Donc ici, en étant au Big Boss, on rencontre tous les partenaires qui peuvent nous aider sur ces sujets.
Et du coup, oui, le sujet du click and collect, c'est récent?
Alors le click and collect, on a commencé à le mettre en place en juin 2015, juste avant les soldes. Ça permet de faire livrer gratuitement à nos clients en magasin dès 40 euros d'achat leur commande. On sait que les frais de port aujourd'hui en France sont un levier de non-transformation. Donc on utilise nos magasins pour pouvoir livrer gratuitement nos colis.
Ok, bon bah super. Merci beaucoup Sophie Fécamp. Donc je rappelle, directrice digitale de Tati.fr.
Merci Aurore.
Aurore Géraud, merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec notre passion selon Sanette. Et puis juste après, ce sera notre French Tech Tour. Vous saurez tout sur la blockchain dans une minute. À tout de suite.